Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour, bienvenue à vous tous, fidèles auditeurs de Métropolez-vous. Un salut spécial à tous ceux qui découvrent cette émission et l'écoutent pour la première fois. Nous poursuivons notre série d'émissions consacrée aux communes de la métropole toulousaine avec le second numéro dédié à la découverte de Flourens, cette commune située à l'est de l'espace métropolitain. La semaine passée, c'est son histoire et son patrimoine que nous avons exploré, en y évoquant déjà quelques aspects méconnus, voire inattendus. Il va y en avoir d'autres au cours de ce second volet qui va lui être consacré au paysage, à la faune, la flore et aux activités de Flourens. Bref, pour le dire de façon plus ramassée, à son territoire et son économie, deux domaines qui sont d'ailleurs souvent liés l'un à l'autre, Flourens, territoire et économie, on y regarde de plus près dans quelques instants. Et pour ce second numéro consacré à Flourens, à son territoire, à ses activités économiques, retrouvailles avec Brigitte Tissier et Francis Colombiès, nos invités de la semaine dernière. Je rappelle qu'ils sont respectivement archivistes et présidents de Florus, l'association qui œuvre à mieux faire connaître et mettre en valeur l'histoire et le patrimoine de Flourens. Tout ça passe aussi par une bonne connaissance du territoire et des activités de la commune. Je propose qu'on commence en faisant un petit tableau d'ensemble et en indiquant à nos auditeurs quelques données de base. Quelles sont, par exemple, la surface, les communes limitrophes et le nombre d'habitants de Flourens à ce jour, bien sûr.
Flourens, donc, est à l'est de Toulouse. Nous sommes autour de 2000 habitants. La population a évolué depuis les années 60, puisque dans les années 60, nous étions, ils étaient que 400 habitants. Nous sommes très près de Toulouse, puisque nous sommes à 12 km de la place du Capitole. La commune s'étend sur 973 hectares. Et nous sommes situés à une altitude entre 160 et 244 mètres.
Oui, donc un petit peu d'altitude quand même par
voilà.
rapport à
Toulouse. Et nous avons même des projets pour justement, avec le paysage que l'on voit de Flourens,
sur la chaîne des Pyrénées.
Et sur la chaîne des Pyrénées, on vous en parlera plus tard.
Bon, vous nous direz tout ça, mais je crois savoir de quoi il retourne. Mais... Alors, les communes limitrophes, vous n'êtes pas limitrophe de Toulouse.
Oui. Nous sommes entourés de 5 communes. Donc, au nord, nous avons Mons, à l'est, Drémy-Lafage, et à l'ouest, Pembalma-Balma, et au sud, Kent-Foncegrive.
Voilà, donc aucune limite commune avec la ville de Toulouse, avec la commune de Toulouse.
Avec la commune de Toulouse, non, oui, voilà. Nous sommes obligés de passer par Balma pour venir de Toulouse.
Alors, je pense que ça intéressera nos auditeurs. On n'a pas la part exacte, en tout cas, je crois, entre les espaces naturels, les espaces urbains et les espaces cultivés dans la commune, mais on peut dire que c'est vraiment une commune à la campagne, une commune très rurale.
Oui, c'est une commune rurale depuis longtemps, et ça, c'est vrai, mais...
Elle est restée rurale en ce sens que le développement urbain est resté concentré autour du lac qui a été construit au milieu des années 60. Et donc les politiques communales, à la suite de ça, ont été soucieuses de ne pas disperser l'habitat. Donc en fait, Toulouse est entourée de champs, de bosquets, et on a vraiment une impression de ruralité encore.
Ah oui, on est très vite à la campagne lorsqu'on sort de Toulouse. Je crois, en tout cas pour moi, une chance pour la qualité de vie.
Lorsqu'on passe, en venant de Toulouse, on passe par l'Asbord de Balma. De suite après les immeubles, on passe à travers, au milieu des champs. Donc on a ce paysage un peu très rural. Il n'y a pas longtemps, il y avait encore un troupeau de vaches qui paissait dans les champs.
Alors ça veut dire, si on parle déjà un petit peu d'activité économique, évidemment qu'il reste des exploitants agricoles sur la commune.
Voilà, sur la commune, il reste 3 ou 4 agriculteurs, même je crois qu'ils ne sont que 3. Et ce sont des jeunes agriculteurs, mais de la culture céréalière.
Principalement de la culture céréalière. Mais aussi, malgré tout, il y a des entreprises installées sur la commune. Il y a deux zones industrielles.
Nous avons la zone du Vignalis et la zone industrielle de la Madeleine. En fait, c'est une zone qui date des années 65.
Oui, moment du grand développement de la construction aéronautique, je pense, autour de Toulouse.
Oui, mais c'est surtout, justement, enfin, on le redira, c'est grâce aux ateliers de Haute-Garonne, qui sont une entreprise importante.
On va en reparler. Mais voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est que ces zones industrielles, ce ne sont pas des petites entreprises, ce n'est pas de l'artisanat, ce sont vraiment des industries de pointe pour la plupart.
Pour la plupart, on trouve quand même un peu d'artisanat. Et on a par exemple une fonderie, Iliad, qui fait de belles œuvres, notamment qui a fait la statue de Nougaro sur la place du Capitole.
Ah oui, voilà. D'accord. La statue de Sébastien Langlois, oui, voilà.
Et la statue de Pierre de Fermat aussi à Beaumont-de-Lomagne.
Village natal de Pierre de Fermat.
Voilà.
Même ville natale plutôt. Voilà, bon, des informations qui donnent un premier aperçu de ce qu'est la commune de Florins de nos jours. Merci beaucoup. On va développer ces aspects et d'autres dans quelques minutes. Dans l'immédiat, nous allons comme d'habitude nous plonger dans l'actualité métropolitaine. Grâce à Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire, Métropolez-vous l'actu. Et la première information de ce flash concerne les énergies renouvelables. Toulouse Métropole devient actionnaire de la société dédiée à la centrale photovoltaïque de l'Oncopole.
Oui, la société dédiée SAS Centrale Solaire de l'Oncopole est détenue aujourd'hui à 51% par la Régie Municipale d'Électricité de Toulouse et à 49% par la société Urba Solar. Toulouse Métropole a décidé de racheter à la Armet 2% des actions de la société dédiée. La prise de participation des autres actionnaires a également changé. Cette participation au capital de la métropole nécessite un apport financier au projet de l'ordre de 40 000 euros et permettra de bénéficier sur la durée de mise à disposition du terrain qui est de 30 ans, des dividendes liés aux résultats de la société et une rémunération des comptes courants d'associés de 5% par an. Ce projet de centrale solaire photovoltaïque sur le site de l'Oncopole doit permettre une production annuelle de plus de 20 millions de kWh, soit l'équivalent de la consommation électrique de 19 000 habitants. Il doit ainsi contribuer aux objectifs de développement des énergies renouvelables et à la diminution des gaz à effet de serre.
Nous continuons avec une information qui concerne l'ensemble des citoyens métropolitains. Il y a désormais des services en ligne pour tous sur la métropole toulousaine.
Oui, afin de faciliter les démarches administratives des habitants, l'adhésion de Toulouse Métropole au téléservice national France Connect a été votée par le Conseil métropolitain. France Connect est un site permettant aux habitants des communes adhérentes de centraliser sur un seul compte l'ensemble de leurs démarches nationales ou municipales. Il regroupe d'ores et déjà de nombreux services tels que le trésor public, l'assurance maladie, les demande de carte grise, l'inscription sur les listes électorales, les différentes caisses de retraite, mais également des services métropolitains tels que la prise de rendez-vous pour l'enlèvement des encombrants ou encore la demande de composteur collectif en pied d'immeuble.
Nous allons terminer ce flash en musique, enfin presque. C'est maintenant officiel, l'Orchestre National du Capitole rejoint l'initiative Demos.
Oui, le projet Demos invite les enfants à suivre un apprentissage gratuit de la musique et à intégrer un orchestre d'enfants. Lancé par la Philharmonie de Paris en 2009, cette initiative permet d'initier des jeunes ne disposant pas, pour des raisons économiques, sociales et culturelles, d'un accès facile à cette pratique dans les institutions existantes. Le projet éducatif s'appuie sur une coopération entre musiciens, travailleurs sociaux et animateurs socio-culturels. Il s'adresse à des enfants de 7 à 12 ans habitant dans des quartiers relevant de la politique de la ville ou dans des zones rurales, à savoir des quartiers toulousains comme Soupétard-la-Gloire et Bellefontaine, deux communes métropolitaines, Blagnac et Cugnot, et deux communes départementales rurales, Muret et Terre du Lauragais. Demos vient compléter Plémusique, initiative menée depuis 10 ans à Toulouse par le Conservatoire à rayonnement régional qui développe les pratiques orchestrales à l'école.
Et alors Corinne, quel est le résultat de cette démarche?
Eh bien, 105 enfants, 30 intervenants, 7 regroupements en orchestre, 120 heures de musique par enfant et plein d'instruments, 32 violons, 24 altos, 20 violoncelles, 20 flûtes, 14 clarinettes, 7 trompettes, 4 trombones et 5 tubas.
C'était le flash d'information métropolitaine hebdomadaire de Corinne Saint-Félix, après lequel nous allons tout de suite reprendre notre discussion et partir à la découverte du territoire et de l'économie de la commune de Florins.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Seconde partie de Métropolez-vous avec nos invités Brigitte Tissier et Francis Colombiès, archivistes et présidents de l'association Florus. Au début de l'émission, on a parlé un petit peu déjà du territoire de Florence, du type d'espace qu'on y rencontre, essentiellement donc rural, avec des exploitations agricoles. Mais enfin, si on rentre un peu dans le détail, quel est le type de paysage qu'on y rencontre ?
Le paysage, en fait, c'est surtout bon, des collines. Nous sommes aux portes du Lauragais hein, aussi, c'est une appellation bon, qui est connue maintenant. Donc, en fait, si vous voulez, c'est ce type
c'est
de collines.
C'est un terrain qui ondule, quoi. Hein,
qui ondule, et donc des petits vallons. Et dans ces vallons, nous avons des ruisseaux qui coulent. Et tous ces ruisseaux vont...
C'est le bassin de l'Erse, en fait.
Vont vers l'Erse. Voilà.
Ce sont des affluents de l'Erse et des affluents d'affluents de l'Erse.
Oui, voilà, en effet, alors... nous avons quatre ruisseaux, quatre cours d'eau qui circulent sur le territoire. Il y a la Seyonne, le ruisseau du Grand Port de Mer, le Noncès et le Garbose.
Sachant que, au moins un d'entre eux, le Garbose, je crois, alimente le lac de Florence dont vous avez parlé tout à l'heure et qui existe tout de même depuis plus de 50 ans.
Oui. Les délibérations du conseil municipal commencent à parler d'un projet de lac collinaire en 1962. Et donc ce projet aboutit et le lac est mis en eau en 1967.
Ça a toujours été un lac qui a été destiné, si on peut dire, aux loisirs, à la promenade, peut-être aux activités halieutiques, la pêche, des choses comme ça. Ou est-ce que c'est aussi un lac qui a pu servir à l'irrigation, puisque c'est une commune agricole céréalière, donc on sait que les céréales ont besoin de beaucoup d'eau. Est-ce que ça a été le cas, ou en tout cas, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ?
En fait, au départ, le maire de l'époque, Louis Durand, avait un projet assez pharaonique d'équipement de loisirs.
Une base de loisirs.
Une base de loisirs autour du lac. Et ce projet n'a pas abouti puisqu'il était quand même très coûteux. Et du coup, le lac a perdu cette fonction-là et maintenant, c'est simplement une fonction récréative, très calme, très...
Alors, la présence de ce lac et puis de ces grands espaces, de grands champs typiques de ce qu'on peut observer par exemple dans le Lauragais, est-ce que ça implique la présence d'une faune et d'une flore particulière qui mériterait d'être observée, découverte ?
Oui, en effet, bon, il y a de la faune et de la flore qu'il faut bien sûr respecter. Et je pense que ça a été une volonté aussi depuis quelques années de ne pas faire n'importe quoi aussi autour de ce lac. Et donc, pour justement observer toute cette faune, il y a une association qui s'appelle Graines de Florence qui, chaque année, organise une matinée pour découvrir justement les oiseaux.
Le chant des oiseaux.
Le chant des oiseaux.
Les reconnaître, bien sûr.
Les reconnaître.
L'oiseau et son chant, oui.
Et puis il y a aussi la nuit de la chouette, là, où on découvre un petit peu toutes les chouettes qu'il peut y avoir dans le coin. Et puis, on va sur le terrain pour écouter les différentes chouettes.
Alors, est-ce qu'il existe, justement, pour découvrir cette faune, éventuellement la flore, des circuits pédagogiques, des balades, des parcours découvertes ?
Voilà, justement, au bord du lac, là, a été créé dans les années 2008, je crois, un sentier botanique qui s'appelle l'arbre à portée de deux mains. Donc c'était à l'initiative, avec la municipalité de l'époque, et l'initiative d'Arbres et Paysages d'Autan, je ne sais pas si vous connaissez cette association, qui a son siège à Aiguevive, donc a permis justement de répertorier un peu toutes les essences locales que l'on trouve sur le coin, d'implanter s'il manquait, et donc il y a des panneaux explicatifs de toutes ces essences, qui sont aussi en braille, puisque c'est dédié aussi aux personnes déficientes
malvoyantes
visuelles.
Non-voyantes.
Voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, sur chaque panneau, vous avez la feuille de l'espèce qui est sculptée en relief. Donc, la personne peut redécouvrir ou découvrir la forme de la feuille de l'espèce.
De l'essence, donc, des arbres qui sont autour de ce lac. On en arrive aux activités économiques ou à l'activité économique de la commune de Florence. On va peut-être parler d'abord des activités anciennes, historiques, si on peut dire. Et j'imagine que c'est essentiellement l'agriculture.
Oui, oui. Comme je vous disais aussi, dans les années 60, donc, Florence comptait 400 habitants. Et sur les 400 habitants, 40 occupaient le centre du village. Hein, où il y avait 4 ou 5 maisons.
Autour de l'église, quoi.
Autour de l'église et de la mairie. Et le reste, donc, était habité dans les fermes. Donc, il restait 360 habitants qui étaient répartis sur les
métairies.
Les exploitations familiales,
voilà.
Donc.
Oui. Où on trouvait, voilà, la famille, les grands-parents,
parfois
les oncles,
3 ou 4 générations
voilà,
habitaient
c'est
dans
ça.
La ferme,
donc,
comme c'était le cas en France, dans beaucoup de départements français
voilà.
À l'époque. Hein.
Donc c'était une agriculture donc, avec des petits terrains hein, où il y avait aussi de l'élevage. Et bon, comme on a déjà dit aussi, au XVIe siècle, il y avait la culture du pastel qui était très forte là aussi.
La vigne aussi.
Et la vigne,
une culture importante parce que chaque ferme avait son petit.
Sa vigne pour faire son vin,
son petit terre de vigne.
Il y avait quand même deux vignobles importants aussi sur la commune.
Qui ont été arrachés depuis.
Mais qui était connu justement, où le vin était un peu exporté.
Il était exporté.
D'accord, voilà, c'était pas seulement pour la consommation personnelle des familles d'exploitants agricoles.
Voilà. Et bon, tout ça a été aussi remodifié avec le remembrement dans les années 60. Et donc aujourd'hui, on trouve des grands champs.
De culture céréalière.
De culture céréalière, voilà.
Alors peut-être quelque chose d'important, les transports et déplacements, comment ils ont évolué dans le temps ?
Alors, dans le temps, ce que l'on sait, en fait, c'est, qui a marqué un petit peu, c'est entre les deux guerres. Entre les deux guerres, il y a eu un petit train qu'on appelait le petit train noir, qui partait du pont des Demoiselles à Toulouse pour aller à Revel. Et donc, il passait sur la hauteur de Flourens, il venait de Foncegrive, donc dans la vallée. Souvent, les passagers devaient descendre pour pousser un peu le train. Hein. Donc, ça, c'est ce que nous disent les anciens, puisqu'on a fait dernièrement une veillée là-dessus. Et les gens l'empruntaient régulièrement, toutes les semaines, même des fois, deux fois par semaine, notamment pour aller soit à Toulouse, mais surtout pour aller au marché à Caraman ou à Revel. Voilà, donc c'était un train qui était très connu. On y mettait aussi
les animaux.
Hein. Et ensuite, donc, il y a eu toujours un transport de Toulouse. Donc, on a interviewé une personne, justement, elle nous disait que l'institutrice venait enseigner, elle prenait le bus dans les années avant la guerre. Donc, c'est pour dire que quand même, le transport est important aussi pour Florence, et notamment avec l'arrivée du métro.
Et oui, c'est ce qui a changé sans doute beaucoup les choses.
Voilà, l'arrivée du métro à Balma.
À proximité.
Ça a été très intéressant aussi, puisque toutes les petites communes qui sont autour de Balma s'organisaient pour permettre justement
une liaison directe
par derrière à Gramont. Et donc, c'est là que s'est créé le transport à la demande. Et ça a été un succès, notamment chez les jeunes. Mais ce qui était intéressant aussi, c'était qu'on a pu voir des familles qui ont vendu la deuxième voiture parce qu'il y avait ce transport qui facilitait l'échange.
Alors, on va parler maintenant des entreprises qui sont installées sur le territoire de Flourens, et notamment, c'est une perle, je crois, une pépite pour cette commune, mais pas seulement pour cette commune, pour l'ensemble de la métropole toulousaine, cette entreprise AAG, les ateliers de la Haute-Garonne, qui fabrique un produit bien particulier destiné à l'aéronautique, mais très important parce que de sa résistance dépend quand même beaucoup la fiabilité d'un avion. Ouais. Ce sont des vis, des rivets.
Des rivets, voilà, ouais, c'est ça. C'est une entreprise qui s'est spécialisée dans ses fabrications, mais on peut dire que, bon, cette entreprise, elle a fait ses 100 ans en 2015 et au départ en fait elle a été créée par c'est une entreprise familiale qui s'appelait Marcelin Auriol et elle se trouvait à rue Notre-Dame à Toulouse au tout début pour fabriquer des charnières de mitrailleuses pour la Première Guerre mondiale.
Oui, donc, en 1915.
En 1915. Les années suivantes, Marcelin crée une machine de fixation pour le matériel agricole. Et voilà, au fur et à mesure des années, entre les deux guerres, les ateliers à Haute-Garonne découvrent une machine de centrage vendue sous le nom de martingale. Voilà. Et donc depuis, la famille...
C'est en 1962 que l'entreprise vient s'implanter sur le territoire de Flourens.
Mais là aussi, c'est le grand développement de la construction aéronautique autour de Toulouse, en fait, essentiellement, pas Toulouse même d'ailleurs, autour de Toulouse, Blagnac bien sûr, mais aussi d'autres communes comme Colomiers, et puis à l'est de Toulouse, donc cette entreprise des ateliers de la Haute-Garonne. Je crois que c'est des millions de rivets, de vis, de boulons qui sont vendus chaque année. Hein,
oui.
Dans le monde entier.
C'est quand même un des leaders mondiaux avec le marché auprès des avionneurs du monde entier.
Oui, donc Boeing, bien sûr.
Et dernièrement, Airbus aussi, voilà. Et dernièrement, l'entreprise s'est lancée dans la visserie depuis quelques années.
Combien d'emplois ?
Alors, les emplois sur...
Je crois que c'est près de 300
C'est 300 sur Flourens, mais la société emploie aussi 850 salariés au Maroc.
Oui, donc c'est une entreprise en plus qui a délocalisé une partie de sa production à l'étranger.
Voilà.
On pourrait dire que c'est une entreprise internationale.
Ouais. Non, au Maroc, ils sont 550. Ouais. En tout, la société emploie 850, c'est ça.
Alors, il y a les ateliers de Haute-Garonne, mais il y a d'autres entreprises, on en a parlé tout à l'heure. Elles aussi dans des secteurs de pointe, le spatial.
Le spatial, oui, on trouve pas mal d'entreprises qui sont spécialisées justement dans, par exemple, comme la société REMS qui conçoit des équipements électroniques, notamment pour le secteur spatial. Ensuite, bon, on trouve quelques autres entreprises. et puis aussi des entreprises plus tournées vers le social.
Alors c'est là que je voulais en venir, parce qu'il y a une grosse structure qui donc œuvre dans le secteur du social et de l'action solidaire implantée sur la commune de Florence. Quelle est cette entreprise? Je ne sais pas si c'est une entreprise, d'ailleurs c'est plus une association.
C'est une association, mais enfin qui emploie quand même pas mal de personnes. Hein. S'appelle l'ANRA, c'est l'Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire, qui donc est une association qui a pour but d'apporter à toute personne en difficulté l'aide et le moyen à son bien-être et à son insertion sociale. Cette association emploie en tout, c'est une association nationale mais plutôt régionale dans l'Occitanie, qui emploie quand même plus de 1800 salariés et qui pilote 60 établissements et services agréés allant du centre éducatif fermé au centre éducatif professionnel, des EHPAD aussi et aux établissements aussi d'aide par le travail, des instituts médico-sociaux et les maisons d'enfants à caractère social que nous avons justement à Florence sur le site du Chêne Vert. Voilà. Cette association est très active sur la commune aussi, puisque elle possède un restaurant d'application formant des jeunes au métier de la restauration.
Donc on peut, du service.
Et du service. Donc on peut,
le temps scolaire,
4 jours par semaine, le midi, manger.
On peut manger sur place. Quoi.
Sur place et vraiment.
Oui, et puis un repas de qualité, dans une très, très belle salle.
Un bel endroit.
Puisque c'est une ancienne demeure de Florence.
Oui, c'est la question que j'allais poser. Ils sont basés dans c'est un bâtiment ancien
oui.
Qu'ils ont acheté sans doute. Et donc c'est là qu'est située l'association et ses activités, en tout cas ses bureaux sur l'administration.
Oui, voilà. Et puis, ils ont créé aussi, il y a quelques années, la résidence Occitanie qui accueille justement des personnes en difficulté qui se retrouvent à la rue et donc qui peuvent revenir se réinsérer. Ils ont un petit appartement et voilà. C'est quand même très intéressant de voir des gens comme ça qui découvrent un peu ce paysage et cette vie-là. Le Chêne Vert ou l'association aussi prête des reins à
une association de jardins. Partager.
Oui, parce qu'ils ont sans doute un vaste parc en tout cas autour de ce bâtiment ancien, comme tous en avaient à l'époque. Et donc, ils en prêtent une partie pour des jardins partagés.
Les jardins partagés, justement, sont très intéressants aussi, puisque une trentaine de jardiniers cultivent leurs parcelles. On met en commun les outils, l'eau, le fumier, puisque la race. Et surtout, il y a une parcelle commune.
Entretenue de façon, par l'ensemble des jardiniers.
Qui est réservée, où les produits sont réservés au secours populaire de Balma. Donc, tout ce qu'on récolte, on le fait passer au secours populaire.
Alors, je suppose que ces jardins partagés sont destinés en priorité ou même seulement à des habitants de la commune de Florence. Pas forcément.
Pas forcément, non. Je crois qu'il y en a...
Ça peut venir de communes voisines.
De communes voisines aussi. Mais ce qui est intéressant aussi, donc, dans le social, c'est que, justement, l'ANRA s'organise tous les 2 ans le festival du social et du culturel. Sur 2 jours, ils font venir même de grands artistes, comme cette année en juin, où ils ont fait venir les Ogres de Barbac, Slim Sly Johnson ou Chartel. Donc, vous voyez, c'est des moments très forts, justement, sur la commune.
Voilà, après, il y a des gens qui disent qu'il ne se passe rien dans les communes rurales.
Voilà.
Eh bien, voilà, justement, vous voyez que Florence présente plusieurs visages et que sa tranquillité et sa qualité de vie ne sont pas ses seuls atouts. Merci encore à vous, Brigitte Tissier et Francis Colombiès, de nous les avoir fait découvrir tout au long des 2 numéros que nous lui avons consacrés. Il me semble qu'il dessine un portrait assez complet de cette commune de l'Est toulousain. À vous maintenant de vous rendre sur place si vous le souhaitez. Ce peut être l'occasion d'une promenade le week-end. L'automne est une saison d'ailleurs qui se prête très bien à ce genre d'excursion. Pour la préparer ou en savoir plus, je rappelle le site web de Florus, consultable à l'adresse www.florus-florence.org. Vous y trouverez entre autres l'agenda des événements et sorties organisées par l'association. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, parce que je voulais dire que Florus aussi est à l'initiative d'une coopération intercommunale justement dans le domaine culturel, patrimonial et historique. Parce que depuis 3 ans, elle a regroupé des personnes passionnées justement par tout ça, de 7 communes autour de Florence. Et donc, nous avons organisé un rallye sur le patrimoine, un circuit à l'occasion du centenaire. Et dernièrement, nous avons fait une randonnée découverte du patrimoine. Et depuis cet été, nous avons créé une association qui s'appelle AFET, c'est-à-dire Association pour le patrimoine, l'histoire de l'Est toulousain.
Voilà. Eh bien, il fallait que ce soit dit, et c'est dit. J'en profite également, puisqu'on en a parlé, pour indiquer l'adresse du site web de l'ANRAS, l'Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire basée à Florins, www.anras.fr. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Francky Guéret. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour une émission consacrée à une autre commune de la métropole toulousaine. D'ici là, n'oubliez pas, Métropolez-vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.